arriver à la décroissance.
Bu de l'alcool et fumé du cannabis.
Tout avait commencé dans le calme.
Soupçonné d'avoir reçu des pots de vin, toujours au Proche-Orient.
Pas de moyen pour répliquer.
Ils ont gaz lacrymogène.
Eux, ils ont les matraques, ils ont tout. Nous, on a rien, on a que les mains, on a que des pierres.
Un fasciste.
L'esclavage n'a hélas pas totalement disparu, y compris en France.
Uniquement le pognon, est-ce que vous êtes content avec ça?
Une question se pose. Les expériences aériennes françaises sont-elles dangereuses?
Est-il vrai que le 26 juillet 2006, une catastrophe nucléaire a été évitée de justesse en Suède?
Oui, c'est parfaitement vrai.
Mais dans le bateau, là où nous sommes embarqués, il n'y aura pas de canot de sauvetage.
L'incompatibilité entre l'existence du capitalisme, la nature du capitalisme, forcément, et la gestion des problèmes écologiques.
C'est la plus belle.
Bienvenue à tous et à toutes. Vous êtes à l'écoute du 102.2, de la plus rebelle des radios. Vous êtes à l'écoute de Radio Canu. Il est l'heure de Canu Info de ce jeudi 30 septembre 2021. Nous allons parler de plein de choses ce soir avec Laurent. Vas-tu bien?
Oui, Delphine.
Oui, tu vas bien, donc. On espère que vous aussi, vous allez bien de votre côté. On commencera avec l'actu du jour.
Hein. Ouais, le petit plaisir.
Le petit plaisir du jour, voilà. Nous parlerons aussi d'agriculture, d'OGM et d'élevage industriel. Nous irons faire un petit glissement du côté de la restauration, de ce secteur d'activité qui paraît-il est sinistré. Nous parlerons science, tu nous parleras ce soir du SIDA.
Une belle rubrique science, on n'en fait pas
une
souvent.
Une belle rubrique, tu t'en congratules quand même.
Non, je veux dire, on va parler du...
Nous parlerons après ça d'art, nous irons voir deux hommes qui nous ont amené bien du plaisir, ça fait marrer parfois là. Nous parlerons ni Dieu ni Maître, toujours avec toi Laurent. Nous parlerons des vieux et des vieilles que soit nous sommes déjà, soit nous allons pas tarder à être. En tout cas, on espère que nous allons vivre suffisamment longtemps pour être vieux et vieilles, mais en tout cas, il paraît que c'est pas drôle d'être vieux et vieille. On ira voir du côté de monsieur Edouard Philippe ce qu'il nous propose pour les vieux, vieilles ou pour les futurs vieux et vieilles. Et puis nous parlerons d'un sujet aussi d'actualité, en tout cas c'est un sujet de mémoire qui est toujours important dans notre société.
Et c'est un bel anniversaire.
Oui, nous parlerons de l'abolition de la peine de mort quand l'État a arrêté d'assassiner. Ce sera pour terminer cette émission, mais tout de suite le plaisir du jour.
Je sens que tu vas me couper la parole
tout le long ce soir. Mais je comprends ton enthousiasme, bien évidemment, parce que nous sommes échangés des SMS pour cette information quand même primordiale de cette journée. Monsieur Nicolas Sarkozy, ancien président de la République française, a donc été condamné à un an de prison ferme. Il a été reconnu coupable dans le dossier Big Malion, vous savez, sur le financement illégal de sa campagne présidentielle de 2012. Alors, c'est une peine qui est prononcée supérieure aux réquisitions du parquet.
C'est la peine maximale.
Voilà, bon. Il a fait appel.
Oui, hein. bien évidemment. Et puis, de toute façon, il ne la fera pas. C'est une peine avec, avec un truc au pied, tout ça.
Oui, c'est une peine aménagée. Mais en tout cas, c'est une discussion qu'on a eue, toi et moi. On ne va pas mettre des gens qui ont envoyé de l'argent en prison, enfin derrière des murs. Enfin,
si, c'est... Sarkozy, si.
Voilà, c'est ce que tu m'as répondu dans, comme argument unique.
C'est un combat politique.
C'est l'ordre du, de, du, justice, évidemment, du symbole et du symbolique.
C'est le premier président à être condamné.
Alors, il a déjà été condamné, hein, Monsieur Sarkozy, oui. Hein, il faut le rappeler, mais c'est vrai que du
la
coup,
prison
il,
ferme, quoi.
Il commence à avoir un petit peu de quelques casseroles pour du côté de la droite, ceux et celles qui espéraient encore un jour un retour de Monsieur Sarkozy. Je pense que définitivement c'est mort, il ne reviendra pas à la politique en l'état. Quoique des politiques nous ont déjà prouvé qu'on pouvait être condamné et continuer à tenir des mairies, par exemple, au niveau local.
On a Balkany qui a quand même été un voleur récidiviste, tricheur récidiviste, escroc récidiviste. Et qui a été condamné quelque part tardivement.
Mais voilà, mais on en a d'autres. Hein, on va pas faire la liste ce soir. C'était juste voilà. Il n'est pas mis en condamnation pour escroquerie. Hein, alors qu'il y a certains de ses petits camarades qui ont ramassé pour escroquerie. Lui, c'est vraiment, il est jugé sur le fond du dossier. C'est que la présidente du tribunal lui a rappelé que il a poursuivi l'organisation de meeting. Je la suite. Il avait été averti du risque de dépassement du plafond légal. Il a continué. Et sachant que ce n'était pas sa première campagne, il aurait dû avoir une expérience de candidat. Et c'est sur ça aussi qu'il a été puni et condamné. Monsieur Sarkozy, je cite, a volontairement omis d'exercer un contrôle sur les dépenses engagées. C'est ce qu'a retenu le tribunal. Et donc, il est condamné. Et donc, ça nous fait plaisir. On notera quand même que... qu'est-ce que c'est long, hein, quand même, la justice, parfois. Ouais. Et puis, le contrôle sur les comptes de campagne se font... a posteriori, très tardivement.
Ouais, ils n'ont pas assez de moyens. Ouais.
Ça manque de moyens et de contrôle. Alors moi, j'ai entendu aujourd'hui dans la presse, je crois, sur France Info, une personne prétendre que en fait, le problème, c'était le seuil légal des dépenses électorales.
Qui serait trop bas.
Qui serait trop bas et qu'il faudrait l'augmenter parce que c'est vrai que quand on voit que des meetings peuvent coûter plusieurs millions, ça pose un problème. Peut-être que c'est plutôt le fait que des meetings
coûtent aussi cher,
plusieurs millions. C'est ça qu'il faut remettre en question. Comment aujourd'hui, notre démocratie fonctionner avec autant d'argent dans des campagnes présidentielles ou législatives, hein, d'ailleurs. Ça, évidemment, casse le fait de pouvoir, chacun et chacune, pouvoir prétendre à se présenter, mais c'est évidemment plus compliqué que ça.
Pas, ça marche pas,
mais en tout cas, c'est vrai que des petits partis, quand t'as pas plusieurs millions à mettre dans la balance, même si on sait qu'évidemment, il y a une rétrocession de cet argent que tu dépenses, il faut faire un certain nombre de pourcentages pour qu'on t'en rende...
47% est remboursé par l'État.
Je veux dire, déjà à la base, il faut sortir l'argent, donc déjà c'est un système qui est discriminant, et puis autant d'argent pour une campagne dans le cadre de la démocratie.
Les seuils sont largement assez élevés.
Donc en fait, en tout cas, on se souvient quand même que c'est un scandale qui a quand même bien cassé la droite à l'époque. Il y a eu plusieurs scandales hein, comme ça qui ont fini de carrément faire capoter cette droite qui aujourd'hui essaie de survivre en ayant plusieurs candidats pour cette campagne présidentielle qui s'annonce. Des candidats qui, certains ne sont même pas chez les Républicains, mais qui prétendent être les mandatés des Républicains. Ça fait quand même marrer hein, cette présidentielle. Elle s'annonce quand même succulente, moi je trouve.
Et pour eux c'est compliqué, on a un président de droite qui est élu avec des voix de droite et de centre-droit et du coup eux, quelle place ils ont?
Mais c'est compliqué pour tout le monde, c'est compliqué à gauche qui évidemment ne peut pas se rassembler derrière un unique candidat. Alors Monsieur Jadot a donc été élu pour les écolos. Maintenant on voit quand même que les partis ont du mal. Pourquoi les écolos vont en primaire, hein? Enfin ça c'est d'après moi, hein. Et parce qu'ils sont incapables tout seuls de désigner un mandat en interne, donc on demande l'avis des gens pour participer à ça et faire une sélection, parce que ça évite que du côté des écolos, on aime bien se foutre sur la figure, mais ça fait partie aussi hein, de cette démocratie. De ce principe aussi, de ce fonctionnement de ce parti, même si on sait que il y a des chefs, hein, évidemment. On sent que c'est très compliqué, mais le problème peut-être vient... Donc, on va avoir de multiples candidatures. Les votes pourraient être très éclatés, allez savoir. On est sorti hein, de ces, ce combat biparti avec quelques trucs autour dans les extrêmes qui agitaient un petit peu les idées politiques, mais pas suffisamment pour gagner. Mais peut-être que simplement, en fait, que ces fonctions présidentielles, elles ne devraient pas exister déjà dans le cadre de notre démocratie.
Oui.
Et aujourd'hui, elle trouve quand même un essoufflement dans sa démocratie, cette fonction, puisque il y a tellement de candidats que ça va être peut-être compliqué d'arriver à élire quelqu'un avec suffisamment de voix, enfin je veux dire assez sereinement, hein, puisqu'on sent que l'abstention est quand même extrêmement importante. Monsieur Macron a été extrêmement mal élu. On peut penser que la prochaine personne qui sera à la présidence sera aussi peut-être mal élue, parce qu'il y a encore de reports de voix, beaucoup d'abstentions. Voilà, peut-être que nos candidats et candidates pourraient se poser cette question, à quoi sert cette fonction présidentielle et peut-on vivre sans ?
Bah, y a la majorité des démocraties représentatives fonctionnent avec un parlement qui décide et pas des électeurs qui votent pour un président qui souvent n'a qu'une fonction honorifique. Et c'est donc le gouvernement élu, choisi par l'Assemblée qui gouverne, et ce qui est beaucoup mieux, hein, c'est ce qui est le cas en Allemagne. Du coup, ça fait des coalitions parce que on gagne plus avec 50%. Voilà, le système français est tout sauf c'est hyper artificiel. Celui qui gagne, on le booste au niveau des du Parlement. Enfin voilà, c'est tout mal fait, et ce système, il est archaïque, et il faut sortir de cette monarchie républicaine pour avoir un système parlementaire, même si on va pas défendre la démocratie représentative parce que elle n'est représentative de rien. Je poursuis, et on va parler du président de droite et de centre-droit actuel, Emmanuel, dit le Macron, dit le magnifique, non c'est pas ça, dit le...
Le tsar, l'empereur, ouais, voilà. Enfin le truc quoi.
Bon bref, le président de la République française, Emmanuel Macron, a à son tour et ces deux dernières semaines et à deux reprises parlé d'un sujet important, et il a pris position pour, je cite, une déréglementation des nouveaux OGM. Donc on va parler d'organismes génétiquement modifiés. Il rejoint ainsi les prises de position de son ministre de l'Agriculture. Grosso modo, aujourd'hui, le gouvernement est uni derrière l'idée qu'il faut développer les OGM. Alors tout ça, ça a commencé à Marseille au début du mois, lors du Congrès mondial de l'Union internationale pour la conservation de la nature, l'UICN. Ça rassemble plein des leaders politiques, des décisionnaires, mais aussi de la société civile, des peuples autochtones, le monde des affaires, des scientifiques, des universitaires, tout ça. Et le but, c'est de faire émerger des propositions concrètes sur la nature, sur l'environnement. Mais, on parle aussi des questions qui détruisent, qui vont à l'encontre de tout ça, et notamment la question des OGM et du forçage génétique. C'est les nouvelles techniques, hein, mises en œuvre notamment par le CRISPR-9, qui permet... alors, c'est une technique qui fait super peur. Hein. Elle permet de casser les lois de la génétique, hein, où quand un individu est porteur d'un gène, il se met avec un individu, on parle, ça peut être un insecte ou n'importe quoi, hein, en fait, il ne transmet le gène qu'à 50%, puisque chaque chromosome a deux allèles, enfin, il y a deux parties. Et donc, il y a la moitié qui vient, on va dire, de la partie du mâle et de l'autre partie de la femelle. Ces OGM et ce forçage génétique permet, avec un individu porteur de ce gène renforcé, eh ben, de devenir dominant. Alors il y a des exemples, hein, qui font super peur. Ils rendent des moustiques stériles. Voilà, ils ont fait des expériences. 150 moustiques stériles, 150 moustiques non stériles. Ils les mettent ensemble et à la fin tous les moustiques sont stériles au bout d'une ou deux générations et tout le monde meurt. Et c'est l'idée qui est utilisée, et ça tue. Enfin, c'est une fois qu'on a imposé ces gènes et ce forçage génétique, on a des risques énormes, hein, sur ce qui va se passer. Et même si les moustiques sont porteurs du paluf, on peut pas se débarrasser des moustiques. Ça fait partie de la chaîne alimentaire d'oiseaux, de grenouilles, de plein de choses. Et ça casse le truc. Et on prend des risques énormes en faisant ça. Bon, bref, Emmanuel Macron a affirmé lors de ce truc-là, de ce UICN, je cite, que quand on trouve des substituts non chimiques, quand on crée des cépages résistants, quand on modifie utilement le vivant, on peut se passer des pesticides tout en restant compétitif. Il s'est donc engagé à mettre en place un plan d'investissement massif d'ici 2030 pour développer les OGM nouvelle génération. Et là, ça craint quand même vraiment beaucoup. Il utilise d'ailleurs l'argument pseudo-écolo de dire, oh, bah, comme ça, on pourrait se passer de pesticides. On sait très bien que ça marche pas, hein, du tout, et c'est loin d'être une bonne solution. Une semaine plus tard, donc on était aux alentours du 10 septembre, il y avait un autre événement qui s'appelle terre de Jim. En fait, c'est une sorte de fête agricole organisée par les jeunes agriculteurs. Vous savez, ils sont proches de la FNSEA, c'est des agriculteurs productivistes qui défendent le droit de détruire la nature pour faire pousser du maïs et d'autres choses. Ils étaient à Corbière, et là, il a réitéré son discours en se disant à nouveau favorable à l'utilisation de ces OGM nouvelle génération. Il utilise d'ailleurs l'acronyme anglais qui est NBT. Alors je vais citer ce qu'il a dit. Il a dit: cela fait partie des instruments qui nous sont offerts. On doit pouvoir, en France, de manière contrôlée, ouverte, transparente, en donnant des garanties démocratiques, procéder aux innovations qui permettent d'avancer dans les pratiques et d'avoir à la fois de la productivité et de mieux résister aux aléas et aux risques. Les NBT en font partie, donc ces OGM dans le nom anglais. C'est intéressant parce qu'ils parlent de manière contrôlée. Alors une fois que c'est dans la nature, c'est incontrôlable en fait. Bon, déjà, transparente, bah, chaque fois qu'il y a eu des trucs OGM, ça a été caché quand même pas mal. Et quant aux garanties démocratiques, sur aucun choix d'OGM, il y a eu des décisions démocratiques, c'est-à-dire faites démocratiques dans le sens étymologique, faites par le peuple. Hein, à aucun moment, il y a eu des référendums, il y a eu des votes pour ça. Donc en fait, il utilise les mêmes mensonges habituels des défenseurs de cette artificialisation de la planète. Donc voilà, on est mal parti. Alors ce discours arbitre quand même des problèmes au sein du gouvernement. Il y avait pas mal de différences d'appréciation. On se rappelle, en janvier 2021, le ministre de l'Agriculture, vous ne connaissez pas son nom, mais parce qu'on l'oublie tout le temps, il s'appelle Julien de Normandie, en un seul mot. Il affirmait alors que contrairement aux deux décisions de justice, donc il y avait eu deux décisions de justice contre les OGM, c'est-à-dire la Cour de justice de l'Union européenne et le Conseil d'État, français, qui disait que ces NBT, donc ces nouvelles technologies sur les OGM, sont bien des OGM, donc ils doivent rentrer dans la même catégorie que les autres. C'est ce que veut faire sauter Macron et leurs amis. Donc voilà, ils s'étaient battus. Bon, ils étaient pas d'accord. Plus tard, la Commission européenne avait proposé de déréglementer totalement les OGM. Donc là, hop, le ministre de l'Agriculture, Macron, tout ça, ils étaient à fond. Ça n'a pas été décidé encore officiellement. Hein. La France avait redonné une position officielle à travers celle du ministre de l'Agriculture, donc Julien de Normandie, et de Barbara Pompili, ministre de la Transition écologique, qui elle aussi défendait ça. C'est-à-dire qu'elle est soi-disant la ministre de l'écologie, et elle est pour cette artificialisation, ces OGM. Voilà. Mais ils n'étaient pas d'accord. Ils disaient tous les deux qu'en fait, ces nouveaux OGM, c'était pour améliorer les plantes, mais à aucun moment ça devait devenir comme dans l'ancienne génération, c'est-à-dire résistante aux herbicides, etc. Là, Macron, lui, il enfonce les grandes portes, il dit non, il faut tout généraliser, tout autoriser, c'est parti, ça va augmenter la productivité. Lui, ce qu'il pense, c'est un libéral, il pense au business, la nature, si elle meurt, il n'en a rien à faire. Il est dans son discours de mensonge habituel, c'est la technologie, même quand elle est destructrice, qui va nous sauver. On n'est pas gagné. Donc voilà. On l'a vu sur les moustiques, on l'a vu sur d'autres choses. Jouer les apprentis sorciers, c'est quand même super dangereux. Et puis toujours sur l'agriculture, c'est ma deuxième info. Et ça nous vient de la Confédération paysanne qui a fait un communiqué super énervé. C'est la question du choix du type d'agriculture et du type d'élevage que l'on veut en France. Est-ce qu'on veut quelque chose d'industriel ou quelque chose à l'échelle humaine? Le gouvernement vient de prendre position contre la planète et contre l'agriculture à échelle humaine. Donc la Confédération a réagi, je vais vous lire ce qu'ils ont dit. Donc il y a deux arrêtés qui ont été passés. Un arrêté dit grippe aviaire, qui signe quelque part la fin programmée de l'élevage en plein air. On rappelle qu'en bio, par exemple, tout doit être élevé en plein air. Donc ça fait disparaître cette partie-là du bio. Il n'y aura plus d'élevage, plus de poulet bio, c'est fini. Si ça va jusqu'au bout et si personne se rebelle. Alors, je cite la Confédération paysanne. Malgré les très nombreuses réunions auxquelles nous avons contribué, nos propositions, les expertises et témoignages de terrain que nous avons produits, comme lors des précédentes crises d'influenza aviaire, donc ça c'est la grippe aviaire qui pose problème en ce moment, le ministère choisit la claustration. Alors, claustration, c'est l'enfermement en fait des animaux. Pourtant, les nouvelles dispositions qu'il a validées sont, il faut le marteler, contre-productives pour lutter contre la grippe aviaire et vont à l'encontre du bien-être animal et de la santé en élevage. À ces arrêtés mortifères pour l'élevage plein air va s'ajouter l'accord interprofessionnel adopté par le CIFOG, alors c'est l'interprofession de la filière foie gras, auquel nous sommes opposés, nous, la Confédération paysanne. Cet accord impose pour les canards, les palmipèdes, l'obligation de pouvoir clostrer à tout moment, c'est-à-dire d'être enfermé à tout moment. Ils aiment beaucoup le mot clostré. Ça doit être un mot technique de l'agriculture qu'on utilise assez peu, nous. À l'inverse, je continue de citer le communiqué, rien n'est prévu pour baisser en densité, pour limiter les mouvements d'animaux vivants, de flux d'intervenants. Pourtant, facteur majeur de propagation de l'influenza aviaire, donc la grippe aviaire, est étayé scientifiquement, notamment par l'ANSES. Nous, éleveurs et éleveuses en canards, volailles de chair et poudre et poules pondeuses plein air, refusons d'être les complices de cette supercherie qui trompera les consommateurs et consommatrices quant à la qualité des produits et leurs conditions d'élevage. Non, un élevage clostré 9 mois sur 12, comme ce fut le cas cette année, ne peut pas être qualifié de plein air. Non, prévoir un demi-mètre carré par volaille, ce n'est pas du plein air. C'est cette réalité que la nouvelle réglementation va imposer. Donc voilà, ils sont super énervés. Il y a un problème de grippe aviaire en ce moment. Et ils rappellent en fait une chose, c'est que c'est pas le fait de sortir les animaux à l'extérieur qui fait qu'il y a des problèmes de crise et de grippe aviaire. C'est le fait que les animaux soient transportés d'un élevage à l'autre, qu'il y ait des gros... Enfin voilà, il y a tout un argumentaire scientifique démontré par l'ANSES qui explique pourquoi il y a cette grippe aviaire. Et le gouvernement prend des positions qui vont à l'encontre donc de cet élevage en plein air et qui valide la démarche industrielle. On sortira plus les animaux, on les enferme dans des cages, voilà. Voilà, et ça a été décidé par Macron et le gouvernement à travers donc deux décrets, dont deux arrêtés, dont l'arrêté grippe aviaire. Ça part mal pour la bouffe.
Alors en parlant de bouffe, nous allons donc passer au secteur de l'hôtellerie et de la restauration. Je ne veux pas parler que de la restauration. Alors c'est un secteur qui se plaint pas mal. Il fait, vous savez, jouer la TVA, par exemple pour la restauration, une TVA à taux réduit. C'est un secteur qui se plaint de voir son personnel s'en aller. Et alors c'est vrai qu'il y a quelques soucis. Alors
c'est vrai qu'ils travaillent à des horaires super acceptables où alors, tu peux avoir une vie de famille, t'es super bien payé. Voilà.
C'est vrai qu'on a entendu donc cette affaire de pourboire, donc les pourboires reçus par carte bancaire ne seraient plus taxés par les cotisations, tout ça. Alors évidemment, ça fait réagir des gens qui disent « Ah bon, les pourboires, on doit les déclarer ?» Bah, oui, un pourboire, c'est un revenu. Évidemment, on a tellement l'habitude de le donner en espèces et de la main à la main qu'on espère bien finalement que ces petits revenus aillent dans la poche de la personne à qui on le donne. Parfois, dans les établissements, c'est centralisé, parfois c'est individualisé, enfin tout ça, voilà. Mais il faut savoir que sur une fiche de paye, il peut y avoir une petite ligne pour boire. Et tout ça, évidemment, est soumis à des petites cotisations. C'est du revenu. Donc, le patronat, là, était tout content parce que ça ferait du revenu qui serait défiscalisé. Et donc, ils trouvent ça vachement bien.
Comme parce ça, que ils pourront payer moins leurs salariés.
Ça fait un revenu complémentaire. Bah, en tout cas, ils pourront ne plus les augmenter. Il faut savoir quand même qu'une bonne partie du personnel en hôtellerie, en restauration est payée au SMIC. Ce qui est effectivement absolument scandaleux. Je vous rappelle que jusqu'à cette date du 30 septembre, c'est 10,25. Demain, c'est 10,47 si je ne me cours pas de l'heure brute. Si je dis une bêtise, vous irez me gronder. En tout cas, ça reste des salaires extrêmement bas.
Avec souvent des horaires décalés.
Exactement.
Donc, dans pas de vie sociale possible. Donc, ça complique la vie, quoi.
Voilà. Et puis, c'est vrai que le patronat ne respecte souvent pas bien cette convention collective hôtellerie, café, restauration. Mais celle aussi qui concerne la restauration rapide, par exemple, on s'aperçoit que plein de choses ne sont pas bien respectées. Les avantages en nature, c'est-à-dire le fait que tu nourrisses tes salariés ou que tu les indemnises quand tu les nourris pas. Si tu travailles dans la restauration, dans les cafés, sache que sous certaines conditions, on doit te donner à manger ou te payer pour tes heures de travail effectuées sur une période de repas quand l'établissement est ouvert à la clientèle.
Ce qui est souvent le cas du coup dans la restauration.
Oui, mais il faut que ça soit appliqué et c'est pas parce que on a un avantage en nature, c'est conventionnel, que pour autant on doit mal te payer. Je veux dire, c'est pas parce qu'on t'ajoute quelques sous sur ta fiche de paye que cela doit empêcher le patronat de payer mieux. Alors on a des horaires en soirée, mais on rappelle aussi que c'est un secteur qui n'hésite pas à embaucher à 39 heures. Alors oui, les heures supplémentaires sont bien évidemment un peu mieux payé, mais reste que tu travailles quand même 39 heures. C'est quand même, voilà, des métiers qui sont pas évidents, qui sont aussi fatigants. Et puis là, on a vu, donc, avec cette période du confinement, effectivement, d'un seul coup, une inquiétude de la barre du patronat en général, qui s'est dit, mince, on perd des gens. Alors, pour vous dire, la direction de l'animation, de la recherche, des études et des statistiques a fait un petit travail de comptabilisation. Et en un an, entre février 2020 et février 2021, les effectifs de ce secteur sont passés de 1 309 000 employés à 1 072 000 employés. C'est-à-dire qu'il y a eu une perte. Ça fait un écart de 237 000 personnes qui ne sont plus des travailleurs de ce secteur. C'est la différence entre les entrants et les sortants. C'est-à-dire qu'il y a eu 450 000 salariés qui ont quitté le secteur de l'hôtellerie et de la restauration. C'est beaucoup plus que les années précédentes et que les comparatifs des années précédentes. Alors, ce qu'on sait, c'est qu'il y a, sur ces 450 000 personnes sortant, il y a 149 000 personnes qui ont été vers un autre secteur d'activité, un autre secteur du secteur privé, hein, bien évidemment, pour la plupart du temps. Et puis, on a près de plus de 30 000 personnes, 33 800 personnes qui ont démissionné. Et puis, on a aussi ceux et celles qui ont abandonné leur poste, qui ont été licenciés. Et ce phénomène d'abandon de poste a augmenté de manière assez importante par rapport à 2019 et à 2020. Alors, ce qui fait qu'effectivement, on a un secteur qui cherche à recruter. Donc, le problème, il est dû, évidemment, à la crise sanitaire qui a laissé sur le carreau un certain nombre de salariés qui avaient des contrats en CDD qui ne pouvaient plus travailler n'ayant pas eu un renouvellement de contrat. Et puis on a ce personnel en CDI qui s'est retrouvé aussi confronté à une petite chose, c'est une baisse de son salaire, puisqu'il y a eu ce qu'on appelle techniquement l'activité partielle et qu'on nomme plus trivialement le chômage partiel. C'est toujours marrant ce mot partiel, parce qu'en fait pendant le confinement, les gens
chômage technique
ont été, ah c'est pas la même chose, ont été au chômage partiel total, hein, parce qu'il y a le chômage partiel, et puis il y a le chômage partiel total. Donc les gens se seront trouvés chez eux avec une partie de leur salaire, hein. Je ne voudrais pas dire de bêtises encore dans les chiffres, mais il me semble que c'était 70% du brut et 84% de votre net, hein. Vous savez peut-être mieux que moi si vous avez eu des fiches de paye dans ce secteur d'activité, hein. Enfin, toujours est-il que vous avez donc perdu du salaire. Et puis il y a quand même des patrons et des patronnes qui ont fait une chose bien, c'est qu'il y a eu du maintien de salaire, c'est-à-dire c'est cette partie qui n'était pas prise en charge par l'État, hein, sur cette activité partielle, qui restait de votre salaire, pour que vous ayez, vous qui m'écoutez, l'intégralité de votre salaire, comme quand vous travaillez. Ce qui était plutôt une bonne chose, c'est-à-dire que votre patron, votre patronne a décidé de ne pas vous laisser sur le carreau avec un salaire moindre, et puis surtout a décidé que, ben, après tout, on aimerait bien que vous restiez. Parce qu'il y a aussi des gens qui ont bougé, hein, de leur emploi. Il y a eu une forte mobilité, ça a vraiment... grosse concurrence avec les tenanciers et tenancières, parce que ben d'un seul coup il y a des gens qui se sont rendus compte que à côté il y avait eu du maintien de salaire, hein, chez les copains et les copines, puis que où ils étaient, ben ça s'était pas passé. Alors quand vous étiez au SMIC, vous aviez toujours votre salaire, mais pour ceux qui avaient des meilleurs salaires, des meilleures conditions de rémunération, vous avez quand même perdu beaucoup d'argent pendant cette période de crise sanitaire, et ça vous a pas toujours été rendu, alors que c'est vrai que vous faites beaucoup de fonctions. Parfois on vous a demandé aussi beaucoup de flexibilité pendant cette période, l'air de rien. Parfois on vous a demandé aussi de venir, hein, l'air de rien, parce qu'il fallait faire un peu du vent à emporter, mais on vous a quand même laissé en activité partielle. Et puis parfois votre patron, votre patronne vous a plutôt bien traité, et donc c'est cette concurrence et cette mobilité qui fait aussi aujourd'hui que finalement on s'aperçoit que bah, il manque du personnel, parce que, un, les gens en ont marre d'être sous-payés, de faire des horaires de merde, de faire du 39 heures, parce que ça aussi, ça joue à partir d'un certain âge. Ça joue même avec des tranches d'âge, hein. Quand vous commencez à avoir des gosses, bah, vous avez plus envie de vous taper du 39 heures en soirée. C'est des métiers qui sont quand même aussi exigeants et difficiles, mais en même temps, la profession ne veut pas payer plus, et donc ne donne pas envie à des jeunes qui pourraient rejoindre ces métiers par de la formation, de s'engager, et en espérant un jour avoir des salaires un peu corrects. Donc, voilà, avant de se plaindre, le secteur doit se remettre en question, et c'est ce que Madame Elisabeth Borne, ministre, hein, de notre gouvernement, leur a demandé. On attend, si jamais vraiment elle était sérieuse en disant qu'elle espérait que le secteur augmente les salaires ou pas, ou si, encore une fois, tout le monde va se faire avoir avec ce gouvernement.
Alors, on va parler science maintenant, et on va revenir sur le passé, on va raconter l'histoire, et on va rebondir sur le présent, en ensuite l'histoire de l'apparition d'une maladie terrible. La première véritable revue qui en parle en est le 5 juin 1981 sur la côte ouest américaine, donc des États-Unis d'Amérique. C'est dans une sorte de revue, là, un rapport qui s'appelle Morbidity and Mortality Weekly Report, qui est donné au Centre américain pour le contrôle et la prévention des maladies, qui détaille plusieurs cas de pathologies dites opportunistes chez de jeunes hommes homosexuels. Alors ce terme désigne, maintenant on le sait, à l'époque on le découvrait, des maladies sévères que l'on ne rencontre habituellement que chez des personnes dont le système immunitaire ne fonctionne plus du tout. Il venait de découvrir ce qui, un an plus tard, aura un nom et ça sera appelé SIDA pour, ça veut dire un syndrome de l'immunodéficience acquise. Aujourd'hui, plusieurs dizaines de millions de personnes dans le monde sont porteuses du virus du SIDA, donc qui s'appelle le VIH, le virus pour l'immunodéficience humaine. Près de 40 millions, à peu près, entre 37 et 40 millions, selon l'OMS, sont mortes de cette pathologie depuis 1981. Ça découverte. Sans traitement adapté, les chances de survie au-delà de 10 ans sont infimes, sont quasiment nulles hein, aujourd'hui. Alors d'où vient ce virus? Comment ça s'est passé? On va essayer de réexpliquer ça, puis on va voir les enjeux actuels dessus. Alors d'emblée, les observations initiales et leurs particularités ont permis de développer plusieurs hypothèses dès le départ hein, sur l'origine du sida. Ça va aller relativement vite et à la fois lentement, vous allez voir. Tout d'abord, la rapide augmentation des cas constatés aux États-Unis au début des années 80, hein, c'est de là où on constate les choses, en fait elles sont arrivées ailleurs, vous allez voir. Ça a vite fourni des statistiques suffisantes pour identifier les populations au sein duquel la maladie se développait. Alors, ça va être la fameuse règle des 4 H, la maladie des 4 H. Donc ça va concerner les homosexuels masculins, les héroïnomanes, donc ceux qui se piquent, enfin tous les usagers donc de drogues injectables, les hémophiles, donc les personnes polytransfusées, et les haïtiens. Donc ça s'appelle les 4 H. On va comprendre pourquoi les haïtiens arrivent au milieu de tout ça. S'appuyant sur ce constat, les médecins ont rapidement suggéré les différents modes de transmission, hein, c'est allé assez vite, la transmission sexuelle, la transmission par le sang, même si au début c'était relativement flou, on savait pas si la salive ça passait sur une petite coupure sur la salive, etc. Mais très vite on a pu la science a été quand même relativement efficace sur ça. Restait le pourquoi des haïtiens. Pourquoi il y avait ce 4e H, hein, c'était pas une volonté de racisme de la part des scientifiques, c'était juste une constatation. Hein, c'était très présent chez les Haïtiens. Donc la découverte du virus va beaucoup aider, on rappelle, hein, c'est Françoise Barré-Sinoussi, Jean-Luc Montagnier, celui qui a vrillé là, et surtout les gens qui ont bossé derrière, hein, parce qu'en fait, ils sont beaucoup accaparés les travaux, notamment des post-docs. Hein, c'est un peu la triste réalité de la science. Parallèlement, on constate donc à cette époque, en même temps qu'on trouve le virus, hein, c'est un énorme progrès, on constate de nombreux cas de sida sur le continent africain, alors qu'au début on l'avait détecté essentiellement donc aux États-Unis d'Amérique, notamment au Zaïre. Alors c'est le nom à l'époque, hein, mais aujourd'hui le Zaïre c'est la République, la RDC, la République démocratique du Congo. Et puis dans la région des Grands Lacs, le Burundi, le Kenya, l'Ouganda, le Rwanda et la Tanzanie. On en trouve aussi aux Caraïbes et forcément donc à Haïti, qui est surreprésenté. Bon nombre de cas étaient aussi diagnostiqués petit à petit donc en Europe, notamment chez des patients originaires de ces pays-là, de ces pays africains. Alors c'était le cas de la France, de la Belgique et de l'Angleterre. C'est des pays qui avaient des liens particuliers pour des raisons des anciens liens coloniaux avec ces pays, qui avaient donc des gens qui venaient de ces pays, plus particulièrement en Europe, et qui ont quelque part amené la maladie, entre guillemets, mais c'est le chemin de la maladie en fait. Hein. Alors en 93, les équipes des équipes d'un institut de santé néerlandais, donc à Amsterdam et à New York, analysent des sérums congelés. En fait, lors des essais cliniques de la vaccination contre l'hépatite B, ils avaient congelé les sérums. Et ils avaient des sérums qui dataient de 1978 jusqu'à 1990. Donc avec le recul, avec ces sérums, ils disent, on va regarder dedans s'il y avait déjà le virus du sida. Et en fait, ils découvrent que le VIH était déjà diffusé dans 3 villes touchées précocement par la campagne, notamment les villes occidentales, c'est-à-dire San Francisco, New York et Amsterdam. Ces données suggéraient du coup l'émergence du VIH, non pas en 81, non pas au début des années 80, mais à la fin des années 70. Et notamment dans la communauté gay américaine au début, et là gay aussi chez les Néerlandais. Parallèlement, on fait des études sur le continent africain pour essayer de comprendre ce qui se passe. Et là, on découvre effectivement que c'est les populations très exposées sexuellement dans certaines capitales équatoriales qui voient apparaître cette maladie entre 1975 du coup et 1985. Donc ça décale un petit peu dans le temps, on recule en fait. On trouve des traces et on va voir que ça va reculer encore plus loin. Donc le virus était moins présent dans la population en général, mais plus présent chez les communautés homosexuelles. Mais il y a quand même des contre-exemples dès le départ. Et notamment, ils ont montré que en 1970, chez les femmes enceintes, sur lesquelles ils ont des analyses de sang, qu'ils avaient congelées, donc ils ont pu aussi analyser, 0,1% des analyses montrent la présence du sida en 70. 3% en 1980, 8% en 85-86. Donc le virus était déjà répandu aussi, donc en Afrique, là on est dans la République démocratique du Congo, dans les populations, dans la partie non homosexuelle, donc ça avait déjà diffusé. Voilà. Et le record, en fait, de trouvailles de traces du virus, c'est un sérum qui s'appelle le ZR59, qui est un sérum qui a été prélevé en 1959 à Kinshasa, et rétrospectivement, quand on fait une analyse, on trouve le virus du sida. Donc il était déjà présent en 1959. Alors du coup, ça vient d'où? Comment c'est arrivé? Alors vous connaissez presque tous l'histoire, hein. On essaie de comprendre comment le virus a diffusé à partir vraisemblablement d'Afrique. Donc on est à la fin des années 50, quand on a cette trace sûre et certaine, donc à Kinshasa, jusqu'au début des années 70, où ça va atteindre du coup le monde occidental. On va voir les analogies avec les choses qui se passent actuellement, du coup, de comprendre comment les épidémies se répandent. Donc l'hypothèse arrive très rapidement d'une transmission interespèce, de l'origine animale du virus, et très vite ça va être le singe qui va être entre guillemets accusé, mais en fait c'est pas une accusation, c'est juste une constatation de la ils vont retrouver un virus, un VIH qui s'appelle le SIV pour le singe, qui est très proche du VIH humain, et il va y avoir les premières hypothèses sur l'origine simiesque de ce virus. Voilà. En fait, à partir de 89, on est quasiment sûr que le virus vient de là. Il est même clairement établi, en fait, aujourd'hui, qu'il a été transmis de singe à l'homme suite à ce qu'on appelle les chasses pour manger de la viande de brousse. Hein, donc, c'est pas forcément en mangeant, parce que quand on cuit, le virus est détruit, mais c'est on se coupe et puis on touche le sang de l'animal. Voilà comment c'est sorti. Alors, vous le savez sûrement, j'espère. Quoi qu'il en soit, ça pose la question en fait des relations humaines avec les espèces animales, hein, puisque là on a la même problématique qu'on a dans pas mal d'arrivées de virus. En tout cas, sur l'origine, on sait que maintenant, avec du recul, pas mal d'analyses dites phylogénétiques, hein, on regarde le nombre de mutations sur les virus et on en déduit, plus il y a de mutations, plus on sait, l'origine est lointaine. On sait qu'en fait, il serait arrivé, il serait sorti de la brousse dans les années 30, donc en Afrique, et qu'il aurait ensuite été transporté par différentes personnes. Alors on sait que ça s'est accompagné de l'augmentation du tourisme, ça s'est accompagné de la libération sexuelle, il a fallu ça, hein, pour que le virus se transmette, la reconnaissance la permission aux homosexuels de vivre un peu mieux, hein, parce qu'avant c'était un peu plus compliqué. Du coup, ça a servi à la propagation du virus. Alors d'abord au Congo, d'abord au Cameroun, en fait c'est remonté tout ça avec... l'histoire elle est tracée maintenant, je ne vais pas tout vous détailler en détail, tout s'est passé, mais voilà, ça a bougé en Afrique. Ensuite, on a eu... Alors, il reste l'hypothèse... Pourquoi les Haïtiens? Les Haïtiens, alors c'est c'est un peu différent. Vraisemblablement, alors là c'est une hypothèse, mais c'est parce qu'il n'y a pas de preuve flagrante, mais ça semble être ça. En fait, il y a eu un moment quand la République démocratique, enfin quand il y a eu des démocratisations suite à la décolonisation, en fait, des Haïtiens sont allés en Afrique et on a notamment en Afrique francophone des enseignants, des administrateurs, des médecins, etc. Et eux, quand ils sont revenus, ils ont ramené cette maladie qui était invisible à l'époque. Hein. On est dans les années 60, milieu des années 70. Cette maladie est invisible, personne ne la connaît, il la ramène. Voilà. Et c'est après qu'elle va exploser suite donc à une vie différente, la libération sexuelle, etc. Aujourd'hui, 40 ans après, on est sûr. Il a fallu 40 ans pour comprendre cette histoire, pour être sûr de cette histoire. Juste pour rappeler que quand on veut savoir d'où vient le Covid-19, il faut apprendre à être patient. La science, elle sait être patiente. Il faut que nous aussi, on apprenne à être patient. Aujourd'hui, on est donc 40 ans après. Aucune région n'a été épargnée. Hein, c'est une vraie pandémie. Il y a un problème de répartition des malades et surtout des malades qui meurent, hein, puisque la maladie est venue d'Afrique, mais aujourd'hui, elle tue beaucoup moins dans le monde occidental, alors qu'elle continue à tuer pas mal, enfin énormément en Afrique, hein, pour différentes raisons, et essentiellement la pauvreté, la difficulté d'accès au traitement, même si on a des traitements qui sont maintenant accessibles en termes de prix. Donc voilà, on en est là. Et ça pose la question du coup de l'impact humain et de la relation avec avec les animaux, puisque cette histoire du VIH, c'est pas unique. Hein. On a la fièvre Ebola, hein, on a l'exemple de la fièvre Ebola qui aujourd'hui arrive à être contenu grâce au vaccin. On a la grippe aviaire, hein, qui elle aussi se balade. On a pas mal de virus qui ont fait ça. Et puis on a les trois dernières épidémies, le SARS-CoV-1 en Chine en 2003, le MERS-CoV en Moyen-Orient en 2012 et aujourd'hui le Covid-19 qui semble aussi venir d'une relation, d'un accident entre du passage entre l'animal et l'homme. On sait que sur le Covid-19, on n'a pas la réponse, on ne sait pas si ça vient vraiment de la chauve-souris, même si l'hypothèse est renforcée ces derniers temps. Il y a l'hypothèse aussi d'un accident de laboratoire. Il y a les élevages qui ont pu jouer un rôle. Voilà, on a plein d'hypothèses et il faut apprendre à être patient, hein, comme je le dis. Il a fallu 40 ans pour connaître la vraie histoire. Alors j'ai pas tout détaillé, hein, du SIDA, donc qui est parti voilà du Congo pour aller se balader en Afrique, arriver en Haïti et ensuite se répandre d'abord aux États-Unis et ensuite en Europe. Hein, voilà, et puis après du coup dans le monde entier, puisqu'aujourd'hui c'est une pandémie mondiale. Voilà. Donc le SIDA est d'actualité, malheureusement, puisque aujourd'hui et demain a lieu le 22e congrès de la Société française de lutte contre le sida. C'est à Grenoble que ça se passe. 650 congressistes sont là-bas et vont remettre, normalement, demain au ministre de la Santé, le ministre français, un texte qui montre qu'on peut, qui propose d'éradiquer le VIH, même sans vaccin. Alors, il y a 10 propositions et ça explique qu'en fait, finalement, si on fait de la prévention, si on donne l'accès au traitement, toutes ces choses-là donnent accès à la santé, on doit sortir de l'épidémie. On n'en sort pas parce qu'il n'y a pas les moyens mis, notamment ici comme ailleurs d'ailleurs. On va revoir les chiffres, puisque l'épidémie de Covid-19 a eu un impact dévastateur sur la lutte contre le sida et contre pas mal d'autres maladies. D'ailleurs, on peut parler du palud, la tuberculose, de certains cancers. En fait, le chiffre de l'ONU SIDA, qui est l'instance de l'ONU qui s'occupe de ça, fait peur. Il y a aussi une structure qui s'appelle le Fonds mondial. Ils expliquent que 20% de tests du sida en moins entre 2019 et 2020 au niveau mondial. 20% en moins. 11% en moins de personnes sensibilisées à travers des campagnes de prévention. Donc on a un recul lié à la pandémie de Covid-19. Et si on suit tout ce que dit l'ONU SIDA ou ce fonds mondial là qui travaille dessus, on a des chiffres qui font peur. Vous savez que quand une femme enceinte est séropositive, on peut sauver le bébé si on fait des transfusions, enfin s'il y a des choses faites en place. Ça a baissé de 4,5%. Pourtant, il y a toujours autant de personnes contaminées, ça a même augmenté. Donc voilà. Alors, ils expliquent que il faut augmenter notre participation. Et la participation, ça, on parle du monde, pas que de la France. Mais la France est critique aussi. On a des augmentations de contamination parce qu'il n'y a plus de campagne quasiment de sensibilisation, notamment sur le port du préservatif. D'ailleurs, même en France, on le voit sur la PrEP, qui est le fameux traitement préventif qui permet de ne pas se protéger, de ne pas mettre de préservatif, mais de limiter les contaminations. Même ça, ça a baissé l'année dernière suite au Covid. Alors on peut se dire, y a peut-être eu moins d'activités sexuelles, mais il y a a priori, il y a aussi surtout moins de prévention et donc du coup moins d'utilisation de cette technique qui n'est pas la meilleure du monde mais qui a quand même un impact positif sur l'épidémie. Donc voilà, alors si on fait le bilan, c'est quand même pas si négatif que ça, 16,5 millions de décès ont été évités depuis 2001 avec les thérapies actuelles. Donc 16,5 millions de gens sauvés, c'est beaucoup. Hein, on peut dire que c'est plutôt quelque chose qui fonctionne et qui pourrait être encore plus efficace. Et c'est ça dont il va être question ces deux jours à Grenoble. Voilà. Alors, les prospectives, elles existent. Il y a Moderna, donc, qui est une des deux sociétés qui fabrique, qui a mis au point un vaccin ARN sur le Covid-19, qui travaille sur un vaccin ARN, sur un vaccin ARN qui sera en phase 1, qui aura une phase 1 bientôt, contre le sida. Ils sont à la recherche de participants, ils en veulent 56 pour l'instant, pour faire la phase 1. Voilà. Alors ça a été compliqué à développer un vaccin tout court, parce qu'en fait, quand on cherche à développer un vaccin, il faut trouver un antigène, c'est-à-dire quelque chose qui fasse réagir, qui fasse que notre corps fabrique des anticorps neutralisants. L'antigène pour le Covid-19, par exemple, il était connu depuis la précédente épidémie, où ils avaient trouvé cette protéine spike qui était sur l'enveloppe du virus, et qu'on pouvait que le corps pouvait combattre, bloquer et bloquer donc après le virus. Donc si le vaccin a été mis au point, c'est parce qu'il y avait eu les deux épidémies avant de Covid, enfin de SARS très exactement. Là pour le sida c'est plus compliqué. Alors ils ont trouvé deux protéines toujours sur l'enveloppe et ils essayent avec ces antigènes pour voir si ça fonctionne, et c'est de ça dont il est question. Alors c'est pas la panacée, parce qu'avec le développement des mouvements anti-vax et anti-science, le vaccin c'est plus le truc qui peut sauver le monde, mais par contre ça peut être un outil supplémentaire. On le voit sur la pandémie d'Ebola, sur les épidémies d'Ebola. Maintenant, ils vaccinent les populations et ils arrêtent l'épidémie très rapidement. Donc voilà, c'est juste pour rappeler que le sida, c'est toujours d'actualité. C'est une histoire longue, 40 ans maintenant, on la connaît. On ne fait pas encore tout ce qu'il faut, mais on a des prospectives. Et voilà, il y a ce congrès donc, aujourd'hui et demain à Grenoble.
Alors écoute, je vais parler tout de suite de la peine de mort, parce que j'avais envie de tenir aussi ce sujet ce soir. On a toute une histoire en France qui a été longue à se mettre en place pour enfin abolir cet assassinat d'État, cette peine de mort. Alors on a d'abord un candidat à la présidentielle de 81 qui met dans son programme, alors c'est pas tout de suite en haut, hein.
Il y avait ça, je sais plus combien de propositions.
Oui, il en avait beaucoup, ouais. qui met à un moment que non, qui va abolir la peine de mort. Monsieur Mitterrand est donc élu, s'engage assez rapidement des discussions et
malgré une opinion publique contre.
Alors, en fait, ça faisait des années qu'il y avait un gros débat dans la société, mais c'est vrai qu'en août 81, le Conseil des ministres approuve un projet de loi qui pourrait abolir la peine de mort. En septembre, le 8 septembre, le projet de loi 310 est présenté par Pierre Mauroy, Premier ministre. Le 17 septembre 1981, Robert Badinter fait ce fameux discours qui restera historique. Un discours historique déjà, tout simplement pour un discours à l'Assemblée nationale, oui. Mais évidemment historique dans le cadre de l'abolition de cette peine de mort. On voulait vous repasser le jingle qu'on avait l'habitude de présenter quand on parlait de la peine de mort, mais on l'a pas fait. On pense pas à tout, qu'est-ce que vous voulez. Dans la foulée est votée à l'Assemblée nationale cette proposition, 369 voix pour, 113 contre. Des voix de la droite vont rejoindre celles de la gauche. Le 30 septembre 1981, plusieurs amendements du Sénat sont rejetés et la loi est officiellement adoptée le 30 septembre 1980 par les sénateurs par 161 voix pour, 126 voix contre. On a toujours su que le Sénat était beaucoup plus conservateur que l'Assemblée nationale. Dans la foulée, très très rapidement, le 9 octobre 1981, la loi est promulguée. C'est important de le signaler parce que parfois dans ce pays, les lois et les décrets se mettent en place
Lentement.
Lentement. Là, ce serait très rapide. La loi du 9 octobre 81 n'a que 9 articles. Le premier, il est simple, facile à retenir. La peine de mort est abolie. Point.
C'est énorme. À l'époque, c'est énorme.
C'est effectivement extrêmement important. Il faut se souvenir que la loi avant 80, c'est l'article 12 du Code pénal. Lui, il est à peine plus long. C'est tout condamné à mort aura la tête tranchée. C'était simple et définitif. Il faut savoir que c'est en 1939, président du Conseil, Édouard Daladier, qui promulgue un décret qui supprime les exécutions publiques. À ce moment-là, ça fait débat. Il y a eu une exécution publique où il y a eu un public qui a brassé, qui a dépassé les forces de l'ordre. Ça a fait du bruit jusque chez les politiques. Et Édouard Daladier prend cette décision. Les exécutions publiques sont interdites. Mais il faut savoir qu'il y avait déjà eu des volontés d'interdire, d'abolir cette peine capitale. Alors, pendant la Révolution, ce qui est très intéressant, c'est que, au moment de Robespierre, vous savez, hein, 1791, la peine capitale, elle est maintenue, mais par contre, on enlève la torture avant.
Putain, il y avait la torture.
Ouais, bah oui, parce qu'il fallait non seulement t'assassiner, mais il fallait d'abord te faire souffrir. Donc l'humanité, quand même, elle progresse, hein, puisqu'à ce moment-là, on enlève donc la torture. Et puis, il y a des volontés, hein, 1795, il y a une convention qui vote l'abolition pour la première fois, mais c'est conditionné à ce qui se passe dans le pays, et de fait, c'est le bazar, donc cette application ne se fera pas. Il faut vraiment attendre, hein, quand même le 20e siècle pour qu'il y ait de retour des débats, mais on peut se dire quand même que c'est Cesare Beccaria qui va publier des délits et des peines, qui va amener ce débat sur l'abolition en Europe et qui va ouvrir, hein, en 1764 ces discussions et ces débats sur le territoire européen. Il va falloir attendre beaucoup, beaucoup en France, du temps, beaucoup de temps, par rapport à d'autres pays. La France, ouais, met quand même du temps à passer le cap. Le dernier condamné en France, c'est en 1977, à Marseille, guillotiné, Hamida Djandoubi. Mais entre, il faut se souvenir qu'entre le moment où, le 30 septembre 1980, où cette loi est officiellement adoptée, et la loi promulguée le 9 octobre 1981, il y a des tribunaux qui vont encore condamner des accusés à la peine de mort. Alors évidemment, ces condamnations ne seront pas appliquées.
Exécutées, oui.
Exécutées, puisque le 9 octobre, cette loi est promulguée et très rapidement. Heureusement que ça a été rapide, parce qu'on voit encore des tribunaux décider que cette peine de mort peut être encore appliquée. Et ce qui est aussi intéressant, c'est les témoignages aujourd'hui des gens comme Philippe Maurice, enfin aujourd'hui, à l'époque, Philippe Maurice qui est dans le couloir de la mort, qui a été condamné à mort quelques mois avant l'élection de François Mitterrand, et qui se rend compte qu'avec l'arrivée de François Mitterrand, en mai 1981, le 10 mai précisément, il pourrait ne pas être exécuté, et ça peut être là à ce moment un grand soulagement. Voilà, il faut savoir que c'est ça, hein, aussi que ça a amené.
Il faut savoir qu'il y a quand même une ou deux affaires historiques d'erreurs judiciaires qui ont fait basculer une grosse partie de l'opinion publique française sur contre la peine de mort.
Alors moi, je remercierai jamais assez ma prof de français qui, quand j'étais pas bien grande, au collège, nous avait fait lire le Pullover Rouge.
Bah voilà, c'est ça, c'est une histoire fabuleuse.
Je sais. Donc, cette affaire, enfin, cet ouvrage, hein, consacré à l'affaire Ranucci, qui défendait une thèse de l'innocence, ouais, hein, de Ranucci.
Et c'est ce livre qui va avoir un impact sur l'opinion publique.
C'est Gilles Perrault, hein, donc, qui écrit ce livre en 78, pour que des profs de français comme celle que j'ai eue amènent cet ouvrage dans les classes et auprès d'élèves assez jeunes. C'est parce qu'il y avait quand même des discussions dans la société très fortes, et qui là, d'un seul coup, moi je me suis retrouvée quand même avec une enseignante qui a pris un parti, et je la remercierai jamais assez, parce que c'est aussi des âges où on peut commencer à s'ouvrir les yeux sur certaines choses, et l'assassinat d'État n'était plus possible, et elle nous a transmis ça. Alors, on pouvait remettre, hein, cette enquête de Gilles Perrault en question, mais le livre effectivement s'est vendu à 1 million d'exemplaires, ça a été un best-seller incroyable, et il a participé à ce débat public. Il faut savoir que pourtant, Valéry Giscard d'Estaing, hein, avant François Mitterrand, n'était pas particulièrement pour la peine de mort. Il s'en est d'ailleurs plusieurs fois expliqué, mais il n'avait jamais osé passer le cap de cette abolition, tout simplement parce que les pro-peine de mort étaient extrêmement puissants. Il y avait des vrais lobbies dans ce pays, dans cette République française. Des lobbies d'ailleurs moins puissants aujourd'hui, hein, mais qu'on continue à entendre. Je vous rappelle que M. Zemmour possible candidat à la présidentielle, a expliqué lors d'une interview qu'il était pour la peine de mort. On n'est pas très surprise dans cette émission de ce genre de position, parce qu'il reste encore dans l'esprit de certains et certaines que quand même il y a des actes qu'il faut punir par la vengeance et par la peine de mort, par l'assassinat d'État. On pense évidemment aux enfants. Hein, lorsqu'il y a viol et meurtre d'enfants, ce sont ces histoires-là qui ont aussi ralenti l'application d'une abolition, la possibilité d'une abolition en France, parce que les derniers condamnés l'ont été sur des affaires de viol et de meurtre d'enfants, et que ça a ralenti les politiques dans cette décision, parce que il y avait une partie du public des citoyennes françaises qui pensaient que si on pouvait tuer un enfant il fallait t'exécuter aussi. C'était ça la position, mais cette position elle était très forte, mais elle n'était pas unanime. D'ailleurs aujourd'hui dans la société française, d'une manière, une grande majorité des gens, quand on les interroge, ne souhaitent pas que cette peine de mort soit remise à l'ordre du jour, ce qui est plutôt rassurant. Monsieur Badinter aujourd'hui, il me semble 93 ans, il continue à se battre, c'est un militant féroce contre la peine de mort. Il continue à se battre, et en particulier à l'international, en expliquant par exemple, il a donné une très belle interview encore à Libération ces jours-ci. Aujourd'hui, Libération a fait grand papier encore sur la peine de mort, contre la peine de mort, en interviewant monsieur Badinter, qui rappelle qu'à travers le monde, il y a encore des pays comme la Chine qui s'exécutent à tout va, et on sait grâce à Amnesty International à peu près le nombre d'exécutés chaque année. Il y a d'ailleurs, je l'ai pas dit, mais au XXe siècle, alors j'ai pas lu son bouquin, mais il paraît que c'est très très bien, donc c'est sur ma pile à lire, qui s'appelle Nicolas Picard. Il est auteur d'une thèse sur la peine de mort. Donc lui, il explique qu'entre 1906 et 1981, il y a eu 1369 personnes condamnées à mort en France, 511 ont été exécutées. Donc condamnation ne veut pas exécution. On sait que dans certains pays, il suffit qu'il y ait un gouvernement qui n'ait pas envie d'appliquer la peine de mort, et les gens restent dans le couloir de la mort. Mais le couloir de la mort, c'est un truc...
C'est pas mieux.
Atroce. Hein. Mmh. On sait que le Japon, par exemple, selon les gouvernements en place, va ralentir, stopper la peine de mort. Mais le but, maintenant, des gens comme M. Badinter, c'est de stopper définitivement la peine de mort, c'est-à-dire d'avoir des pays qui continuent à abolir la peine de mort. On a 108 pays qui ont définitivement aboli la peine de mort, 36 qui ne l'appliquent plus en ce moment. Et puis, on a 55 pays qui continuent à y recourir régulièrement. Je vous parlais de la Chine, mais on parlait de l'Iran, par exemple. L'Arabie Saoudite, dont on a beaucoup parlé dans cette émission il y a quelques années, tend a priori à ralentir le nombre des exécutions, mais pas forcément des condamnations. Donc ça, c'est aussi des éléments à suivre. Est-ce qu'on condamne et est-ce qu'on exécute? C'est deux points importants. En tout cas, en France, ça reste quelque chose au niveau judiciaire qui a marqué les tribunaux, puisqu'en arrêtant la peine de mort, en arrêtant de cette condamnation, les avocats ont cessé de rentrer dans un tribunal en pensant faire des discours contre la peine de mort, mais se rentrer à nouveau dans les tribunaux pour défendre les clients directement sur les actes sur lesquels ils étaient accusés, parce que pendant un moment, sur les années 70, c'était ça en fait qui était prioritaire, c'est-à-dire empêcher une condamnation à mort. Donc voilà, ça a transformé notre société, nous on en est absolument persuadés dans cette émission, et on espère bien qu'il n'y a pas des abrutis comme Monsieur Zemmour et autres compagnies qui vont continuer à parler de tout ça.
Partout dans le monde, et là sans aucune exception, où triomphe la dictature et le mépris des droits de l'homme, partout, vous y trouvez inscrit, là, en caractère sanglant, la peine de mort.
Voilà, il nous reste 4 minutes, ouais, si tu veux nous parler. Nous avons le choix entre ni Dieu ni maître. Et puis vas-y, je te laisse.
Bon, ni Dieu ni maître, j'essaie de faire court. Deux petites choses. La première, c'est du courage, à signaler. C'était ce matin, trois femmes afghanes sortent dans la rue avec une banderole qui proclame « Ne politisez pas l'éducation, ne brisez pas nos stylos, ne brûlez pas nos livres, ne fermez pas nos écoles ». Voilà, un peu la classe devant une école. Elles sont rejointes par trois autres manifestantes avec une autre pancarte. L'éducation est identité humaine. L'identité humaine. 6 femmes comme ça dans la rue en Afghanistan, dans la capitale. Bon, une dizaine de talibans en armes arrivent. Ils violentent pas mal les jeunes femmes. C'était devant un lycée, très exactement. Les journalistes étrangers sont là. Ils sont pris à partie. Ça tape un peu. Et puis les talibans expliquent que c'est pas normal. La manif n'était pas autorisée. Mais que les femmes, si elles l'avaient demandé, elles auraient eu le droit de manifester. On sait très bien que c'est faux, bien évidemment. Et il y a cette petite phrase assez sympathique. Malheureusement relativement juste. Je vous rappelle que dans, ils disent, je vous rappelle, c'est un taliban qui parle à un journaliste, je vous rappelle que dans des pays modernes, la France ou les États-Unis, la police frappe les manifestants. Oui, c'est vrai. Mais enfin bon, sur les dernières manifs, début septembre, il y a eu 2 morts, hein, quand même. Donc ça tue un peu moins chez nous. Donc voilà, le vrai courage de ces femmes qui sont, bon là, elles étaient que 6. C'est compliqué, quand même, ce qui se passe là-bas. Et puis, l'autre info, c'est toujours autour des pensionnats autochtones au Canada. On en avait parlé ici, hein, ce truc horrible, hein, environ 150 000 enfants des Premières Nations, donc Amérindiens, Inuits et Métis, qui ont été enlevés à leur famille et placés dans des établissements catholiques. Certains sont morts dans d'atroces souffrances, il y a eu des sévices, etc. Et là, la conférence des évêques catholiques a fait un micro-pas en donnant une obole. Donc ils ont dit, on va verser 30 millions de dollars canadiens, ça fait à peu près 20 millions d'euros, aux survivants des pensionnats autochtones, et on s'excuse. Voilà, on attend toujours quand même, bon ils sont excusés, bon, on attend toujours l'ouverture des archives catholiques sur le sujet, aussi bien les archives du Vatican que les archives de l'Église catholique du Canada. Bon, ça reste un crime contre l'humanité commis par des institutions religieuses là catholiques qui restent impunies parce que vraisemblablement au Canada comme ailleurs, on poursuit pas les religions aussi criminelles soient-elles. Donc c'est une maigre consolation, c'est symboliquement plutôt positif, mais on est quand même loin de la justice.
Et pour terminer, je vous invite à aller lire sur geo.fr, c'est pas tous les jours que j'y vais, je vous avoue. C'est dans le numéro 33, un beau papier de Valérie Kubiak qui s'appelle 1907, l'année où l'on a failli abolir la peine de mort en France, pour dire que cette question, elle n'était pas récente. C'est très intéressant puisqu'on revient sur le meurtre de Marthe Helderbing, 11 ans par Albert Soleillan, et comment à ce moment-là on aurait pu déjà abolir la peine de mort et que ça n'a pas été fait. C'est un bel article, un petit peu long, et c'est très très bien.
Du coup, on n'a pas eu le temps de faire tous nos sujets. Parce que
bah, il y en a que je vais les garder pour la semaine prochaine, parce que certaines actualités ne périssent pas.
Bah, très bien. Donc voilà, c'est 20h. On va laisser l'antenne de Radio Canu, soit aux bandes continues, soit à une émission. On se retrouve donc la semaine prochaine, 19h-20h. C'est l'équipe du jeudi. Et tous les jours de la semaine, quasiment, il y a un Canu Info à 19h.
Ciao, ciao, à bientôt.
Bye, bye.